Bonjour et bienvenue sur Tropic FM et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance vous invite au cours de cette nouvelle saison à partir à la découverte de ces territoires, de ces acteurs qui, au quotidien, travaillent, inventent, initient des projets artistiques à partir de cette question « Comment faire ?» Comment la création, sous toutes ses formes, peut être le moteur de la rencontre, du faire ensemble, du vivre ensemble. Au sommaire de cette émission, vous découvrirez une nouvelle rubrique proposée par Gérard Bonnefond que nous aurons en direct depuis Paris. Puis, avec Lucien Guérinel, nous plongerons dans l'imaginaire musical de Maurice Ohana et de Jean-René Combe d'Amiens. Enfin, nous joindrons en fin d'émission au téléphone notre correspondante en Suisse, Kay Pastor, pour évoquer un projet novateur, la mise en place d'une coopérative de médiateurs culturels. Mais pour l'instant, nous retrouvons notre rubrique « Parole d'auteur, parole de compositeur » avec Josy Josserand.
Un artiste ressemble plus au ciel, aux pluies, aux tempêtes des pays qu'il hante, qu'aux idées qui flottent à l'aventure selon les modes. Ce sont ces éléments naturels qui forment sa sensibilité. Maurice Ohana.
Oh,
d'écouter Mambo, extrait de Swan Song pour 12 voix mixtes de Maurice Moana, interprété par l'ensemble Musica 13, cet ensemble placé donc sous la direction de Roland Ayrabedian. Donc là, un des compositeurs que nous allons pouvoir tout à l'heure découvrir un petit peu plus, puisque nous lui consacrons une place d'honneur aussi dans cette émission, aux côtés d'un autre compositeur, je l'évoquais tout à l'heure en évoquant notre sommaire, Jean-René Comte-Damien, Maurice Ohana, Lucien, un personnage important justement de la création musicale, par l'homme bien sûr, par la caractéristique de sa musique et puis même le caractère, je dirais, aussi indépendant aussi de cette musique dans un paysage musical à la période où celui-ci est intervenu, qui a marqué aussi, bien évidemment, un peu tout ce paysage et ce moment aussi d'écriture ou en tout cas de moment de la musique d'aujourd'hui.
Certes, Maurice Ohana est un homme d'une carrure exceptionnelle dans le sens où déjà il avait une carrure physique et intellectuelle de première importance, mais à l'intérieur même de cette dimension, le mot exceptionnel se rapporte à la démarche qui est véritablement une démarche unique dans la musique qui a été qualifié, nous ne reviendrons pas sur l'abus de ce mot-là, de contemporaine qui continue de l'être, parce qu'effectivement, c'est la musique de notre temps. Et Maurice Ohana, dans cette musique de notre temps, a écrit du Maurice Ohana, et pas, comme il le dit si bien dans la citation que nous a exprimée tout à l'heure Josy Josserand, c'est une personnalité qui est sur elle-même, et qui découvre et qui invente à sa manière. C'est, je crois, le don le plus remarquable dont il nous est gratifié jusqu'à présent. Et même après sa mort, cela continue, parce que c'est l'intérêt d'une musique, c'est évidemment qu'elle dépasse la fin de vie de quelqu'un.
Oui, et ça, je crois que c'est pour ça qu'on avait à cœur aussi également de pouvoir faire découvrir à nos auditeurs donc cette musique de Maurice Ohana. On voit aussi que la voix, c'est quelque chose aussi qui va marquer aussi l'ensemble de son œuvre.
C'est même la chose qui marque le plus, si je peux dire.
Oui, moi je peux aussi.
Il faut rien négliger. Il a écrit quelques choses pour le piano qui sont très remarquables, parce que ça ne ressemble pas au piano que l'on a entendu depuis des siècles, ni à ce que font les autres. Il a écrit un piano ohanien, et la voix, bien entendu, qui est sa grande passion, et son traitement. Donc, le traitement ohanien de la voix est un traitement qui est emblématique, et il ne ressemble à rien d'autre. On connaît les expériences d'un Berlioz et d'un Stockhausen, enfin de beaucoup de compositeurs, mais le traitement de la voix moderne, donc, selon Maurice Ohana, est justement une voix qui n'est pas moderne. Oui. Elle est une voix qui remonte au fond des âges et qui n'est plus du tout la voix inscrite dans le bien chanté, si je puis dire. Hein?
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
Bel canto, c'est ça.
Non, mais complètement, chanté, on est ailleurs.
Mais on peut pas dire bel canto, parce que bel canto est un terme qui s'approprie tellement à une sorte d'opéra italien que je préfère le mot bien chanté, c'est-à-dire la manière d'approche vocale que l'on connaît et qui est l'essentiel de la production européenne depuis des siècles.
Donc, oui, là, peut-être en rebond, je pourrais citer justement un propos de Christine Prost de 1992 et qui, je trouve, va aussi dans ce que vous venez de dire, Lucien, où elle parle de l'ostinato et l'incantation, justement, forme naturelle du rituel, imprègne la musique d'Ohana de leur force concentrée, de leur violence panique, expression de la permanence, toujours actuelle, d'une angoisse ontologique que seule la force vitale peut mettre en échec.
Oui, c'est une phrase très remarquable. D'ailleurs, Madame Pro est une femme très remarquable. Et effectivement, on peut retenir chaque mot, mais celui qui est le plus fort, c'est l'expression de violence panique. Et je crois que c'est bien ça, la peur, panique, Pan, c'est le dieu Pan, hein, en réalité. Donc le mot panique vient de là. Et c'est la peur essentielle, celle qui est la condition même du monde animal.
Et complètement.
Pas que de l'humain.
Pas que de l'humain, bien sûr.
Bien sûr, parce que les animaux, eux, sont livrés à des assauts répétés. D'ailleurs, les humains ne manquent pas eux-mêmes d'être agressés de tous les côtés. Donc la peur, panique, c'est ça. Et forcément, Ohana va puiser dans le tréfonds, si on peut me permettre ce mot-là, de l'organe vocal pour aller chercher des sonorités qui ne sont pas celles d'une rhétorique habituelle, d'un léché. Là aussi, permettez-moi ce mot, qui est très intéressant, bien entendu. Ça fait toute une civilisation musicale. Mais bon, il est allé chercher autre chose, et ça, quand même, il est le seul.
Il est le seul.
Voilà. Même s'il y a eu des imitations après, mais c'est le seul.
Et je rebondis encore pour aller aussi dans ce que vous venez de dire, Lucien, en reprenant aussi là, les propos et la parole de Christine Prost, qui soulignait aussi, et je trouve que ça va bien dans ce que vous venez de nous dire, dans l'analyse que vous en faites, son harmonie non fonctionnelle, non directionnelle, se replie sur elle-même en pure couleur, par le jeu d'alchimie sonore d'un extrême raffinement, génératrice d'énergie interne.
Les mots essentiels sont donnés.
Tout à fait.
L'harmonie n'est pas fonctionnelle, n'est pas directionnelle, c'est-à-dire que ça annule, si vous voulez, la démarche hoanienne. Après, il n'est pas le seul, bien entendu, mais ça annule le faux débat et le faux conflit entre le tonal et la tonale. Voilà. C'est tout à fait autre chose. Et par conséquent, dans la méthode, si on peut dire, en tout cas dans l'instinct créateur d'un Oana, c'est l'aboutissement, c'est celui de l'énergie interne. Hein. Je cite le dernier terme de Christine Prost. Et l'énergie interne, c'est à mes yeux, en tout cas, la seule chose qui vaille.
Et qui est complètement l'essentiel.
Voilà, s'il n'y a pas l'énergie interne, c'est pas la peine. Il faut aller pêcher à la ligne.
Je vous propose donc d'entendre, de découvrir une pièce de Maurice Ohana, deux incantations pour voix, flûte et piano. Nous allons écouter la deuxième de ce mouvement, de l'ensemble de cette pièce qui s'intitule Pity. Donc voici Pity de Maurice Ohana. C'était donc un extrait des deux incantations pour voix, flûte et piano de Maurice Ohana. Nous écoutions le deuxième mouvement, Piti. Nous avions Marie Kabayashi, soprano, Shiyaru Tachibana à la flûte et Takino donc Yamada au piano. Donc là aussi une merveilleuse interprète qui servent aussi magistralement. Vraiment la... Bah d'ailleurs, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire cette force interne, cette énergie-là. Aussi ce... On sent bien, je trouve aussi, ce... l'incantation, hein, ce rapport au rituel, notamment avec la voix, d'ailleurs, cette voix magnifique. Oui. Et vraiment, toute cette force, justement, cette concentration dans l'écriture, de cette force de la pensée, et d'esqueter Ohana.
Car ce qui est quand même important, c'est qu'il y a une écriture, voilà. une véritable écriture. Il ne s'agit pas de changer le mode d'émission de la voix pour aller au tréfonds des choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a tout ça, bien sûr. Donc, forcément, l'émission de la voix est un peu surprenante pour ceux qui sont habitués uniquement. Alors là, au bel canto, bien sûr, c'est autre chose. Mais quelle écriture! Le rapport qu'il y a d'abord entre la voix et la flûte, et puis le déroulement mélodique, hein, parce qu'il y a même un déroulement mélodique, ça c'est dans le fond des âges, ça n'est pas gommé, ça, qui est absolument admirable.
Complètement.
Il y a une intelligence, donc le mot de raffinement est toujours présent.
Très juste.
Chez un compositeur de cette envergure, heureusement, et c'est ce qui fait... la grandeur.
Et puis en même temps, je trouve que dans la musique de Maurice Ohana, c'est aussi quelqu'un qui s'inscrit de manière intemporelle. C'est-à-dire qu'on peut entendre, même si bien sûr on a très peu de documents sonores qui pourraient nous donner la juste vérité de ce qu'était la musique à cette époque, mais on peut ressentir quelque part un peu l'agressivité. On peut sentir aussi quelque part la musique populaire. On peut sentir en même temps la musique savante. Voilà. Il a quelque chose qui passe au-delà des époques.
Voilà, c'est justement, permettez-moi, je vais faire peut-être un jeu de mots, mais c'est tout le contraire de ce qu'on appelle la musique contemporaine.
Oui, on est d'accord. Qui colle à une mode d'écriture ou à un langage. Il a un langage intemporel.
Ça se rapporte à la phrase qu'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas
tout à fait. Ce qu'a dit Josie tout à
l'heure, rumeur d'une époque, d'un instant qui correspond à notre vie, donc qu'on baptise forcément contemporain, et qui est l'essentiel, c'est autre chose. C'est le frémissement qui est en dehors de l'âge proprement dit et qui traverse le temps. Bon, le grand mystère de la vie, de l'humanité, de l'histoire de la Terre, hein, la révolution terrestre.
Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on avait envie, chers auditeurs, en vous faisant découvrir la musique de Maurice Ohana, de joindre aussi un compositeur qui lui aussi s'inscrit dans une démarche très singulière. On pourrait d'ailleurs utiliser beaucoup des mots que nous venons d'utiliser pour Maurice Ohana. On pourrait aussi les utiliser pour cet homme, pour ce qu'il est, pour aussi la force de sa musique. Alors il s'agit d'un compositeur qui, lui, dont Maurice Ohana nous a quitté il y a déjà quelques années maintenant, 1992, hein, si je me trompe pas. Là, nous avons avec Jean-René Combe-Damien, un compositeur qui est né en 1957, donc qui est dans la pleine cinquantaine, on va dire dans la pleine force de l'âge aussi de l'écriture, mais qui également... a une écriture singulière, une musique singulière. Il a aussi, comme avec Maurice Ohana, un amour de la voix, du texte, enfin de la parole, de la parole, mais de la parole dite, de la parole. On n'est pas non plus dans le bel canto, comme on disait là tout à l'heure. Il y a vraiment une écriture singulière de la mélodie, du rapport du mot. Et puis là aussi, quelque part, c'est pas les mêmes musiques, on est bien d'accord. Il y a aussi une question d'intemporalité aussi, je trouve, aussi dans la musique aussi de Jean-René Combe-Damien, même si bien sûr il vit avec son époque. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont venues traverser aussi sa pensée et sa musique. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a des similitudes, en tout cas, entre ces deux hommes.
Bien sûr. Par la naissance, il y a un demi-siècle d'écart, ça fait partie des choses de la vie. Et puis, ça, c'est irréductible. Mais effectivement, la personnalité de Jean-René Combe-Damien est très, très marquante. C'est pas un homme de haute déclaration, c'est pas un homme qui danse sur l'estrade. C'est un homme qui est dans son secret, et c'est le seul creuset où on peut essayer de faire quelque chose.
Oui, tout à fait.
Et j'ai, pour, vous le savez, la plus vive amitié pour ce jeune compositeur. Par rapport à moi, c'est un jeune, et puisque nous avons 30 ans d'écart, hein, mais j'ai la plus vive admiration pour ce qu'il fait, parce que c'est, voilà, c'est un alchimiste tranquille, dans la mesure où on peut être tranquille quand on fait de l'art, hein. Mais enfin bon, un alchimiste tranquille qui correspond donc à sa carrure personnelle, qui n'a rien à voir avec celle de Oana, et cette attitude d'un véritable créateur silencieux, si je puis dire, hein, en dehors de l'effet sonore que propose toute musique, est tout à fait intéressante. Elle est plus qu'intéressante, même pour, vous savez, je ne peux pas dire peut-être au micro ce que je vous dis dans le langage personnel et privé, mais je suis très étonné qu'un homme comme Jean-René Combe-Damien n'ait pas la résonance sociale qui revient à sa musique, selon moi. Voilà.
On peut dire que quand même, et ça aussi c'est un fait important, il y a quelques années, donc il a eu le deuxième prix du Tilleul. Ce qui est remarquable aussi pour, ce qui montre aussi un peu, bon, il n'y a pas qu'Henri Dutilleux qui siégeait bien sûr dans ce jury, et d'autres compositeurs y étaient présents. Mais vous avez raison, je crois qu'il fait partie comme d'autres compositeurs qui ont peut-être un langage un peu à part aujourd'hui.
Parce que quelques concours, parmi la totalité des concours, je dis bien quelques concours font quand même la vraie part des choses.
Tout à fait.
Et je ne pense pas, je n'ai pas approché ni de loin ni de près le jury du concours Dutilleux, ni même le concours Dutilleux, mais je ne pense pas qu'on puisse, au niveau du concours qui porte le nom de Dutilleux, faire je ne sais quelles approximations qui ne correspondent pas tout à fait, je suis sévère dans mon propos, mais ça fait rien, j'assume cette sévérité, qui soit autre chose qu'une véritable appréciation de l'œuvre qu'on a sous le nez, c'est-à-dire dans les oreilles, hein. Et donc, ça explique que Jean-René Combe-Damien ait eu à ce prix-là. Mais, voilà. Alors, mon propos vaut ce qu'il vaut, mais la musique de Jean-René Combe-Damien ne vaut pas ce qu'elle vaut. Elle vaut par elle-même. Elle est celle d'une personnalité qui se démarque, effectivement. C'est un garçon qui écrit de la musique moderne, hein, bien sûr.
Bien évidemment.
Il n'écrit pas comme au XVIe siècle. Personne n'écrit comme au XVIe siècle, d'ailleurs. Hein. Il faut en finir avec ça. Hein. Bon, ni même comme à la fin du XIXe. Bon, mais il propose une musique, comme Oana a proposé une musique. C'est le seul critère qui doit être retenu, c'est-à-dire la personnalité de quelqu'un, quel que soit le genre dans lequel il va s'épanouir. Voilà, c'est ce qu'a dit cette phrase de Oana, qui est capitale. Je la connaissais pas, je l'ai découvert aujourd'hui.
Oui. Un artiste ressemble plus au ciel, aux pluies, aux tempêtes des pays qu'il hante, qu'aux idées qui flottent à l'aventure, selon les modes. Ce sont les éléments naturels qui forment sa sensibilité.
Mais voilà. Les éléments naturels qui forment sa sensibilité. On ne peut pas aliéner une sensibilité au prix d'une adhésion à des chimères, qu'elles soient contemporaines ou pas.
Alors je vous propose justement de découvrir et d'entendre la musique de Jean-René Combe-Damien en vous proposant une œuvre qui va associer deux voix de femme et violoncelle, et qui s'intitule « L'homme debout ».
Thank you.
l'homme debout. Voilà, cette, je trouve que ça fait complètement écho, Lucien, à ce qu'on a essayé de vous faire partager, cher auditeur, autour de la musique de Maurice Ohana. Et là aussi, on sent cette énergie interne, cette force. On pourrait parler aussi d'incantation, aussi également.
Oui, certainement, mais surtout une expression. Ce mot-là continue quand même à avoir toute la valeur qu'il a toujours eu à travers
cette force expressive.
Cette force d'expression est saisissante. C'est une œuvre qui vous laisse retourner le propos déjà, bien sûr.
Bien sûr.
Mais à travers un propos où on peut faire évidemment tout autre chose avec des véhémences, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de bruit, René Comte-Damien reste un monsieur. Donc lui, c'est un homme debout, mais qui réfléchit. Et sa musique, elle est à la fois réflective et inspirée.
Et inspirée, oui, voilà. Complètement.
Et pour moi, c'est une grande œuvre, ça.
Puis elle est servie admirablement. Ouais. On a Ladislav Zasmari qui est au violoncelle, merveilleux aussi dans son toucher, là aussi dans cette sensibilité.
Absolument.
Et puis, magnifiquement servie aussi par deux chanteuses que sont Véronique Dubois, soprano, et Marion Kitchev, aussi contralto, qui là aussi donne toute cette force aussi d'expression.
Oui, c'est un sujet d'ailleurs d'espoir que de voir le nombre de jeunes artistes qui sont de très haut talent. Ils vont, ils viennent, on n'entend pas forcément leur nom tous les matins, peu importe, ils existent. En tout cas, là, ils témoignent d'un talent avéré, d'un service musical qu'implique le talent et qui est vraiment très, très impressionnant. Voilà.
Et en même temps, c'est tout l'enjeu de cette émission de Résonance. Et nous poursuivons le sommaire de cette émission. Peut-être que nous aurons l'occasion justement de terminer celle-ci avec Maurice Ohana. Nous allons voir. Vous avez pu voir, cher auditeur, que dans mon annonce du sommaire, je vous annonçais justement le démarrage d'une nouvelle rubrique avec Gérard Bonnefond. Des petits incidents techniques ne nous permettent pas d'accueillir Gérard Bonnefond aujourd'hui dans la présente émission. Mais n'ayez crainte, dès la suivante, nous aurons le plaisir vraiment de partager là aussi son témoignage. Alors, au cours de nos émissions, nous vous proposons d'être au plus proche de la création, de cette création qui vit, qui émerge, de l'art qu'on pratique et qui nous redonne une place, qui nous permet de nous sentir à nouveau et toujours vivants. Là aussi, l'homme debout. Pour cela, Résonance s'est entouré d'une équipe d'une vingtaine de correspondants réguliers implantés dans nos régions ou à l'étranger. Et ceci présente un sujet, une réflexion, une action, une initiative. Lors de notre dernière émission, vous avez pu entendre le point de vue et le témoignage d'Anne-Marie Chapsal, chef de chœur, formatrice en Savoie, puis d'Alain Vasseur, directeur artistique de l'association Itinéraire Singulier à Dijon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à cette antenne Kay Pastor, notre correspondante à Genève. Bonjour Kay.
Bonjour Alain, bonjour.
Et bienvenue en tout cas, nous sommes toujours très heureux quand nos voisins suisses partagent avec nous ces moments d'antenne. Alors, Kay, aujourd'hui, on profite aussi de ce moment pour évoquer une initiative aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien évidemment, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Suisse, beaucoup de choses aussi à Genève, artistiquement et aussi dans tous les domaines. Et là, on va quand même rester dans un sujet qui nous est cher aussi et important dans cette émission, parce qu'il va concerner des personnes aussi en situation de handicap. Et il y a aussi un projet, justement, tout à fait novateur dans le domaine de la médiation de l'offre culturelle, des œuvres picturales, avec peut-être la mise en place d'une coopérative de médiateurs culturels. Alors, qu'est-ce qu'il en est, finalement ?
Oui, voilà. Donc, nous sommes en train de créer une coopérative de médiateurs culturels. Et c'est un projet tout à fait inclusif. Alors, je ne sais pas si le mot « inclusif » vous met tout de suite sur l'idée que nous prenons en compte les points de vue, ainsi que les besoins des personnes en situation de handicap.
Ça, c'est extrêmement important, ça.
Voilà, dès le départ du projet. Donc, c'est en cela que, dès son démarrage, tout est absolument inclusif.
C'est ça.
Donc, l'idée, c'est de former une coopérative coopérative de personnes tout à fait professionnelles et expérimentées dans la médiation culturelle afin de répondre à une offre et à des besoins émanant des différentes institutions culturelles et d'insérer dans cette offre une offre faite par des personnes en situation de handicap dirigées vers le grand public et aussi vers les publics particuliers et spécifiques. Alors il y a un projet, un programme de visite pour des personnes avec un handicap mental que je dirige.
Oui, tout à fait. On avait eu d'ailleurs le plaisir au cours de la précédente donc saison radiophonique d'accueillir justement deux de ces personnes en formation auprès de toi.
Hein? Oui, voilà, exactement. Donc Frédéric Kessler et Adrien Zurflu, qui ont un handicap mental et qui sont, depuis le début de cette année 2013, depuis janvier dernier, en train de se former à la médiation culturelle.
Et là, c'est vraiment une première, hein, ça aussi, hein. En tout cas côté suisse.
Alors oui, c'est une première. Et il y a aussi des personnes sourdes qui se forment pour faire des ou qui sont déjà formées et qui emmènent des groupes pour faire des visites en langue des signes. Et puis il y a deux personnes aveugles à Genève qui sont à même maintenant d'accueillir des groupes de personnes aveugles. Donc c'est vraiment une tendance comme ça maintenant où on se dit qui est le plus à même de répondre aux besoins des publics spécifiques que les personnes personnellement concernées.
C'est ça. Donc se dire effectivement comment une personne effectivement en situation de handicap mental peut être aussi retransmettrice vis-à-vis d'autres, alors valide, mais aussi en situation de handicap, pour essayer d'accompagner ces personnes dans la découverte d'une offre culturelle, qu'elle soit celle d'un musée, enfin principalement dans les musées, hein, je pense un peu tout seul.
Alors oui, c'est dans les musées, mais pas seulement.
Parce
qu'on a vu que cette les différentes techniques de médiation culturelle vont très bien pour tout ce qui est culturel. Ce qui est culturel, c'est un champ vraiment extrêmement large. On est allé au Muséum d'histoire naturelle. Ça participe à la culture
bien
aussi.
Sûr.
Donc toutes nos techniques de médiation vont très bien dans ce cadre. On est aussi allé l'année dernière à l'opéra. Les mêmes choses s'appliquent. Donc c'est un champ quand même extrêmement large.
Et ça, c'est vraiment. Et donc du coup, ça va être l'objet de cette idée de coopérative. C'est-à-dire du coup, ces personnes-là, qu'elles sont en situation de handicap, et je crois valide, hein, puisqu'il y a déjà aussi des médiateurs culturels qui interviennent dans les musées, dans les différents musées suisses.
Oui.
Et donc l'idée serait aussi qu'on retrouve, et c'est là où on retrouve le mot inclusif aussi quelque part, dans cette structure. Voilà, c'est toutes ces entités finalement pour un service de médiation.
Voilà, exactement. Et c'est très intéressant pour les travailleurs, ceux qui sont en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas, de pouvoir travailler ensemble et d'échanger leurs différents points de vue.
Et puis, ça va être intéressant aussi, j'imagine, de mesurer à un moment donné comment des groupes ou des personnes, de manière individuelle, en situation de handicap, vivent aussi, cette visite, étant accompagnés par quelqu'un qui a aussi ses sensibilités et cette manière aussi de parler de ses œuvres et de comment lui, il assure cette transmission.
Oui, absolument. Absolument.
Ça me paraît important parce qu'on laisse peu c'est pas souvent. C'est pour ça que je trouve que cette initiative me paraît extrêmement importante, hein, en tout cas à souligner et dont il est important d'en faire écho. C'est que là, on place vraiment aussi la personne en situation de handicap comme acteur d'une retransmission, acteur de transmission de savoir, de connaissances.
Oui, absolument.
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, est-ce que, par exemple, cette mise en place de cette coopérative, quel est un petit peu le timing, la temporalité de la mise en place? Parce que je crois qu'en ce moment, bien sûr, il y a des réflexions, il y a certainement la manière d'imaginer la mise en place, les personnes qui vont la constituer, comment répondre peut-être aux diverses institutions. Comment ça se présente un petit peu?
Alors en fait, on est quand même assez avancé dans la partie réflexion, puisque ouais. ça fait un moment qu'on est sur le terrain avec nos différentes façons de faire de la médiation culturelle mmh. et de la proposer au public spécifique. Mmh. Et là, on est vraiment sur le point de signer les statuts pour la coopérative.
Ah, très bien.
Et on s'est donné en fait jusqu'à la fin de l'année pour être tout à fait fonctionnel.
Donc ça veut dire que donc début 2014,
oui.
la coopérative pourra déjà remplir ses missions, répondre à des demandes.
Oui, absolument.
Et ça,
absolument.
Donc sur l'ensemble, quels sont un petit peu peut-être les partenaires potentiels, je dirais, sur la ville de Genève, pour laquelle la coopérative sera peut-être et même certainement sollicitée?
Oui, alors on est ouvert aux besoins de toutes les différentes institutions, donc théâtre, musée et tous les différents domaines justement de la culture, comme je le disais tout à l'heure. Mmh. Et on espère avoir des partenariats comme ça dans tous les différents domaines pour être vraiment avoir un éventail comme ça le plus large possible, à la fois au niveau des publics et au niveau de l'offre culturelle.
Et est-ce que, à ton avis, qu'est cette initiative qui là est sur Genève, rappelons-le, est-ce qu'on va la retrouver à, par exemple à Lausanne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à Berne ou éventuellement en Suisse allemande, Zurich aussi également, ou Bâle? Est-ce que ça c'est des choses qui pointent ou là c'est vraiment très novateur aujourd'hui à Genève?
Alors je crois qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde et on
D'accord.
arrive tous un peu à cette même conclusion, je crois. C'est vraiment une tendance actuelle qui nous est pas propre, mais à force d'inclure des publics spécifiques, on se rend compte que ils ont une immense richesse à amener et de véhiculer eux-mêmes le savoir et les connaissances avec toute leur sensibilité et toute leur connaissance propre, ça amène tant de richesses au grand public.
Là aussi, je crois que Kate, tu as un petit peu suivi le déroulé de l'émission justement par Internet.
Oui.
Ce qui me permet de rappeler bien sûr aux auditeurs que c'est tout à fait possible aussi d'écouter Résonance et bien sûr Tropic FM avec toute sa diversité sur Internet. Ça me semble aussi tout ce que tu nous dis et justement cette force de sensibilité. On évoquait des compositeurs comme Maurice Ohana et Jean-René Comte-Damien. On parle de la même chose. On parle d'identité, de singularité, de force d'hommes et de femmes,
hein,
d'énergie qui sont là.
Voilà, et, l'homme debout.
Exactement, debout. L'homme debout. Je trouve que.
Et la femme aussi.
Et la femme, on ne l'oublie pas, bien sûr.
Rajouter.
Absolument, et tu as tout à fait raison. C'est essentiel. Mais là, voilà, on sent bien qu'on parle de la même chose, quoi. Et c'est important de donner la possibilité à chacun, justement,
d'être debout,
et d'exprimer cette force et ce que chacun est, avec ce qu'il est, bien évidemment, avec son chemin et sa biographie. Mais voilà, l'homme debout et dans toute sa dimension. Et du coup, de ce fait, une richesse pour le commun.
Absolument, avec sa singularité, avec sa singularité et avec tout ce qu'il ou elle a qui est universel et qui ressemble à l'autre.
Et est-ce que peut-être on peut tenter cette question, même si peut-être à l'heure d'aujourd'hui il est peut-être difficile d'y répondre, mais est-ce que tu sens que c'est quelque chose aussi qui... Bon, ça va déranger un petit peu, il y a des habitudes, si je peux dire, dans les aspects de médiation, et déjà des personnes qui effectuent déjà ces médiations un peu sur la cité, sans rentrer forcément dans d'énormes détails, mais on peut se poser peut-être cette question de comment cette nouvelle manière de faire, peut-être, ou l'arrivée de ces personnes, comment on le sent, comment ça te semble vécu?
Oui, alors moi je sens qu'il y a vraiment ces personnes sont le point de vue de ces personnes est vraiment très bien accueilli et je sens que les oreilles de chacun sont vraiment grandes ouvertes pour capter ce que ces personnes ont à dire. Je crois que c'est le moment est venu, tout le monde attend.
Bien oui, ça, je crois que ça c'est important. Alors, on sait aussi que de notre côté, alors côté France, hein, bien sûr, oui. Il y a aussi des actions de médiation qui sont bien sûr menées par des professionnels au sein des musées. On sait que de temps en temps, des initiatives aussi sont un petit peu prises, un petit peu allant dans ce sens-là. Alors, pas encore dans l'idée de coopérative, d'action organisée, on va dire, hein, au travers de ça. Mais voilà, ça c'est pour ça qu'on va suivre avec attention comment on va se développer ce projet. Les dimensions qu'il va apprendre et on aura l'occasion bien sûr de revenir te visiter
très volontiers.
Te visiter et puis peut-être de réinterpeller bien évidemment ceux et celles qui seront bien sûr ces médiateurs en titre, ces hommes debout hein, et ces femmes debout qui seront là voilà pour aussi dans ce plaisir de transmettre ces connaissances et puis cette offre culturelle très riche que l'on peut avoir également donc sur Genève.
Hein. Oui.
Merci Kay, en tout cas.
Hein, merci beaucoup Alain.
C'est un grand bonheur d'avoir ces nouvelles du côté de la frontière, même si nous sommes pas très très loin, en tout cas. Et puis donc on se dit à très bientôt alors.
À très bientôt.
Merci Kay, au revoir.
Au revoir.
Nous arrivons au terme un petit peu de notre émission. Bien. Avec des hommes debout, des femmes debout, c'était un peu peut-être le...
Dois-je rappeler que le mot « homme »
oui.
est un terme générique
et
qui implique bien évidemment l'homme et femme.
La femme.
Il n'y a jamais qu'une différenciation sexuelle qui est propre à la biologie. Mais l'homme et la femme, c'est une seule et même chose.
J'en suis bien d'accord. Voilà, donc pour cette émission, j'étais accompagné par Josie Josserand, Lucien Guérinel et Simon Deborne à la technique. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis donc mardi prochain de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org pour la réécouter, mais vous pouvez bien sûr la écouter sur Radio Tropique en direct ou en différé. Vous avez vu que Kay était en direct pour l'écouter justement sur Internet et connaître les grilles des programmes de Radio Tropique en vous rendant sur son site www.tropiquefm.org. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. À bientôt.
L'animation originale Soirée Bonnet de Jurieu encore vendredi 20 et vendredi 27 septembre. Caroline.